Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large sur Chris Marker, bricoleur spatio-temporel, avec Christine Van Hache, Bamsha de Pourvali et aussi Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Des statues meurent aussi en 1953 à Chat-Perché en 2004, en passant par Le Joli Mai, Sans Soleil, Level 5 et tant d'autres. En tout, une cinquantaine de films, dont un chef-d'œuvre mythique et matriciel, La Jetée. Chris Marker a signé une œuvre profuse et inventive qui réfléchit la nature même de l'image cinématographique et son rapport à la réalité. Chris Marker, c'était aussi un artiste engagé, militant, mais jamais idéologue ni dogmatique, initiateur et maître d'œuvre du brûlot collectif Loin du Vietnam, créateur des groupes Medvedkin qui donnaient à des ouvriers les moyens cinématographiques de se représenter eux-mêmes, créateur aussi du collectif de production et de distribution Sloan, très actif dans le cinéma militant des années 70, contributeur anonyme au Cinétract de mai 68 et du film qui, 10 ans plus tard, réfléchit les échecs des utopies révolutionnaires, l'élégiaque et bouleversant, Le fond de l'air est rouge. Mais Chris Marker, homme mystérieux qui a toujours souhaité se retirer derrière son œuvre et refuser le jeu des apparitions médiatiques, Chris Marker était aussi, et peut-être avant tout, un écrivain et un éditeur, un photographe et un inlassable globe-trotteur, un archiviste et un historien, un amateur d'art et un musicien, un explorateur des nouvelles technologies. Enfin, lui qui se retrancha à la fin de sa vie, jusqu'à sa disparition en 2012 à l'âge de 91 ans, sur la plateforme virtuelle Second Life, où on pouvait le croiser sous le pseudonyme de Sergei Mourazaki ou sous la forme de son dernier avatar, le chat tigré Guillaume en Égypte. C'est l'île virtuelle qu'il y avait créée, l'ouvroir, qui constitue le pivot de la très riche exposition que la Cinémathèque française lui consacre depuis mercredi, Les 7 vies d'un cinéaste, visite guidée dans Plan Large ce samedi avec l'historienne de l'art Christine Van Hache, commissaire de l'exposition avec Raymond Bellour et Jean-Michel Frodon, et Bamsha de Pourvali, docteur en cinéma et spécialiste de Laisser filmer, auteur du petit cahier sur Chris Marker, au cahier du cinéma. En fin d'émission, retour à l'année 1968, Fernando Ganzo nous racontera comment Christopher Nolan a supervisé en secret la restauration d'un chef-d'œuvre toujours mystérieux 50 ans après sa création, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. On entre dans cette exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, littéralement par l'appartement de Chris Marker, grandes photographies qui sont reproduites sur les murs, et puis on entend cette voix de Florence Delay qui décrit Chris Marker avec beaucoup de qualificatifs. Alors, je ne les ai pas comptés, mais il me semble qu'il y a plus que 7 vies, comme l'annonce le titre de l'exposition. Et quand on voit cet appartement avec toutes ces cassettes vidéo, ces DVD, avec cette façon de les ranger, on voit les films de Godard qui sont entourés par Wells d'un côté et Hitchcock de l'autre. Dans quel ordre vous les rangez, tous ces qualificatifs? Est-ce qu'on peut dire que Chris Marker est avant tout un archiviste?
Alors, je pense qu'il était un archiviste, très certainement, et qu'on voit en rentrant dans l'exposition par son studio, qui était à la fois son lieu de vie, la manière dont il organisait ses propres collections, ses propres archives, et dont il était entouré de machines diverses et variées, des téléviseurs, des magnétoscopes, des magnétophones, des synthétiseurs de son, des ordinateurs. On sait qu'il regardait plusieurs télévisions en même temps, la télévision anglaise, la télévision russe, les chaînes de la télévision française, qu'il écoutait plusieurs radios, qu'il était très connecté avec tout ce qui se passait dans le monde. Et ça se voit dans ses photos prises par Adam Bartos en 2007. C'est un peu son rangement à lui, très très personnel.
Alors la grande difficulté quand vous avez eu accès aux archives et aux nombreuses archives de Chris Marker, c'est d'organiser tout ça. C'est un fonds énorme. Il y a ce que vous connaissiez, puisque vous connaissiez Chris Marker depuis 35 ans, déjà, Christine Van Hache. Comment est-ce qu'avec les commissaires de l'exposition, vous-même, Jean-Michel Frodon et Raymond Bellourd, vous vous êtes plongé dans cet univers et comment l'organiser, puisque Chris Marker lui-même n'aimait pas trop l'idée de rétrospective. Je ne sais pas comment il aurait pris cette exposition ici, mais de son vivant, il s'est toujours un peu opposé, d'une certaine manière.
Mais oui, de son vivant, il n'était pas trop pour une exposition qui le replongeait dans le passé, puisque c'est quelqu'un qui vivait vraiment dans le présent. Même s'il jouait avec les passages du temps, il était très présent et il regardait plutôt le futur. Donc il cherchait plutôt des projets dans lesquels il pouvait se projeter. Et il cherchait plutôt, du côté des nouvelles technologies, comment avancer dans le temps, comment sauter les étapes. Et quand on lui posait des questions sur le passé, il faisait l'impasse, il ne répondait pas, carrément il ne répondait pas. On ne pouvait pas lui poser des questions sur ses carnets de notes qu'il avait prises durant la résistance, durant la guerre. Enfin, il voulait toujours avancer, c'était quelqu'un qui regardait l'avenir.
Alors, allons voir le passé, puisque après cette île virtuelle de Second Life, on va passer sur des éléments factuels qui permettent de retracer l'histoire de Chris Marker. On a une frise chronologique et peut-être déjà préciser que Chris Marker, ce n'est pas son vrai nom, c'est le premier de ses pseudonymes. Babchat Pouval.
C'est le plus connu de ces pseudonymes, mais ce n'est pas le premier, puisqu'il y avait déjà un premier pseudonyme qui était Marc Dornier, très tôt, dès la fin des années 30, quand il dirige un journal lycéen qui s'appelle Le Trait d'Union, qui est le journal lycéen du lycée Pasteur,
à
Neuilly, où enseignera Jean-Paul Sartre à partir de 1938. Et qui confiera justement Jean-Paul Sartre donc un texte à la revue, donc Sartre qui est déjà connu à l'époque puisqu'il a déjà publié La Nausée et puis des critiques et c'est déjà une figure littéraire connue, donc Marker déjà est une personnalité disons dans ce monde lycéen et il invente ce premier pseudonyme Marc Dornier qu'on retrouvera par la suite au moment de la guerre puisque c'est un pseudonyme qui va l'accompagner et d'une certaine manière on peut même dire que Marker est pratiquement la contraction de Marc Dornier, puisque Marc Dornier s'écrit avec ER à la fin. Et donc, Marc Dornier ne disparaît pas complètement, mais c'est un autre personnage. Vraiment, il faut insister sur le mot personnage, au sens même de masque, de création de Christian Bouche-Villeneuve, qui est son véritable nom. Donc, c'est un autre personnage qui va apparaître, qui va naître au sortir de la guerre. Et qui va s'ajouter à cette personnalité qui existait déjà, qui était pour moi déjà assez forte, comme on peut le voir aussi dans l'exposition, dès 37-38.
On a trouvé une vingtaine de pseudonymes qu'il utilisait selon les fonctions. Quand il était traducteur, c'était Franck Marcassin. Quand il était musicien, c'était Krashna, Sandor Krashna. Quand il était poète, c'était Marc Dornier. Et voilà, il y en a une vingtaine, mais on n'est même pas sûr d'avoir fait le tour, puisqu'on n'a pas repéré ces pseudonymes durant la résistance. Donc il y a un peu encore un travail à faire à partir de tous ces pseudos qu'il s'est inventés et avec lesquels il a pas mal joué.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée.
Prévoir un peu de temps et même beaucoup de temps pour aller visiter cette exposition Chris Marker à la Cinémathèque française. parce que certains films sont présentés dans leur intégralité. C'est le cas de cette première salle où nous sommes. Où sommes-nous, Mme Chahed-Pourvalloux ?
Alors, on est dans une salle où on peut voir dans son intégralité Les Statues meurent aussi, qui est l'un des premiers courts-métrages de Chris Marker, co-réalisé avec Alain René. Donc, c'est un travail qui s'est étendu de 1950 à 1953 et qui est un film, en fait, qui va remporter le prix Jean Vigo au moment de sa sortie, mais qui sera aussi frappé par la censure, puisque la dernière partie du film, qui est un pamphlet anticolonial, va être censurée lors des premières représentations publiques, officielles du film. Et c'est l'un des premières manifestations de la censure dans l'œuvre de Marker, qui en connaîtra beaucoup.
Donc évidemment, cette censure fait un certain bruit. Chris Marker et Alain René reçoivent des soutiens, et notamment dans une des choses, un des éléments très rares que vous avez retrouvé pour cette exposition, Christine Van Hache, il y a une lettre du grand critique communiste du cinéma, Georges Sadoul, qui est un peu mi-figue mi-raisin sur ce film. Les statues meurent aussi.
Ben oui, je ne sais pas dans quelles circonstances Georges Sadoul a vu le film, mais c'est vrai que le film a deux parties. Comme le disait Bamchab, il y a une partie donc, qui fait l'apologie de la statuaire africaine, et puis une autre partie qui est constituée d'archives pâtées, probablement, dans laquelle Marker et René font la critique du colonialisme. Alors, peut-être que Georges Sadoul, en s'adressant à Nancy Cunard, n'était peut-être pas d'accord avec la première partie du film, qu'il aurait préféré qu'on fasse entièrement un film entièrement critique.
Pour le film même un peu raciste, dit-il.
Bah, ce sont deux cinéastes blancs qui réalisent ce film. Ils avaient comme conseiller Charles Raton, qui était un spécialiste de l'art africain, mais c'est vrai que Nancy Cunard n'y était pas.
Alors, derrière cet écran, il y a une autre vitrine, et qui est sans doute la vitrine qui en dit le plus sur Chris Marker, en tout cas sur sa conception du montage, c'est-à-dire du collage. On trouve tout à fait à droite un petit livre, un livre de poche, très important. C'est le Musée imaginaire d'André Malraux, et nous sommes face à une très grande paroi qui reproduit les albums de cartes postales de Chris Marker, qui fonctionne vraiment dans la pensée esthétique de Malraux, c'est-à-dire qu'on va rapprocher sur des correspondances de formes des œuvres qui n'ont rien à voir ni dans le temps ni dans l'espace. En quoi la façon d'André Malraux d'envisager l'histoire de l'art va former Chris Marker, Christine Van Hache ?
Mais on a découvert de manière étonnante dans ses archives des carnets et des albums dans lesquels il a collé des reproductions d'œuvres d'art, des cartes postales, en les assemblant à la manière des surréalistes d'une part, c'est-à-dire en mettant ensemble des images antagonistes qui n'ont rien à voir entre elles, mais aussi Marker a été très influencé par le musée imaginaire de Malraux. Il a créé son propre musée imaginaire en mettant en relation donc ces images venant de cultures diverses, de domaines variés, n'hésitant pas à faire des rencontres hétéroclites très surprenantes. Et c'est vrai que ces carnets, ces cahiers de collage sont des curiosité dans cette exposition et dans la trajectoire de Marker, parce qu'on pourra analyser les films de Marker maintenant désormais différemment à partir de ces carnets de collage et à partir du musée imaginaire d'André Malraux.
Mme Chahed-Pourvalloux, vous qui avez particulièrement étudié les essais cinématographiques et en particulier ceux de Chris Marker, est-ce qu'on peut voir ici effectivement une conception du montage se former ?
Oui, parce que effectivement, on voit aussi que Marker était quelqu'un qui rassemblait des documents qu'il pouvait trouver de façon hasardeuse ou accidentelle ou lors de ses voyages, mais qu'en même temps, il y avait toujours l'idée de créer une composition. parce qu'on le voit très bien, effectivement, dans la manière dont c'est présenté, dont c'est rangé. Donc là, on retrouve l'idée du musée imaginaire d'André Malraux, qui est quand même une idée qui est quand même liée à l'édition. Je veux dire, l'idée du musée imaginaire, c'est quand même l'idée du livre, en fait, qui permet, enfin, la photographie qui permet aujourd'hui le musée imaginaire. Donc ça se traduit aussi par le livre, ce qu'on verra très bien dans la salle suivante avec les petites planètes. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit que l'idée de l'essai, effectivement, chez Marker, qui est un terme littéraire, mais qui est un terme qui, certainement, à partir de Malraux, trouve aussi une dimension liée aux images. Dans le musée imaginaire, il y a la notion d'image qui apparaît. Donc, Marker va ensuite naturellement aller vers le cinéma et ce terme d'essai va être appliqué au cinéma, parce que d'une certaine manière, il fera des livres qu'il appellera court-métrage et il fera des films qu'il appellera photoroman. Donc voilà, une manière en fait d'assembler des éléments photographiques à travers une idée, une pensée qui effectivement s'inscrit dans l'héritage de Malraux. Et je crois savoir qu'il y avait beaucoup de livres sur Malraux justement dans la bibliothèque de Chris Marker.
Il y en avait à peu près 25, donc on s'est dit qu'il s'est vraiment plongé dans la vie et l'esthétique de Malraux. Mais je crois que ce musée imaginaire a influencé toute son esthétique à partir des années 50, à travers les éditions par la suite, à travers ses films, mais aussi à travers ses compositions électroniques, à travers son CD-ROM, tout ce qu'il a pu faire après sur les ordinateurs. Et donc c'est une sorte de forme de pensée qui a créé une esthétique très spécifique à Marker.
C'est ce qui est très passionnant, c'est qu'on voit ici une démarche qui ne demandait plus qu'Internet pour s'accomplir. Le CD-ROM, on a l'impression que ou ce qu'il fera après sur Second Life, on a l'impression que Chris Marker désirait la possibilité d'accéder à toutes les images du monde et que Internet a presque été créé pour lui. Il y a eu une pensée rhizomatique comme ça chez Chris Marker. On la retrouve dans les arborescences de ses disques durs qui sont exposés aussi et qui donnent une idée de la façon de penser de Chris Marker, Banchat pour Valley.
Oui, effectivement, ce qui pour moi est étonnant dans le parcours de Marker que montre très bien l'exposition, parce que je pense qu'il faut vraiment insister sur la cohérence de ce parcours tout en étant très diversifié et nourri d'énormément de choses. Pour moi, il y a une vraie cohérence dans le parcours de Marker, c'est qu'on a l'impression effectivement qu'il y a toujours une anticipation de ce que va devenir le monde des images, le monde des idées. Et c'est vrai dans le travail que fera Marker, mais c'est vrai aussi dans certains textes qu'il a pu écrire, par exemple dans Corène, dont on peut voir l'ouvrage dans la salle autour de Petite Planète. Corène se termine par une lettre au chat G, qui est une lettre qu'il écrit à un chat, mais qui en fait est certainement Armand Gatti, le fameux G, l'initiale du chat en question, où il s'interroge en fait sur l'avenir des machines. On est en 58, le livre paraît en 59, mais la lettre est datée de 58, où il dit que demain, les machines seront de plus en plus présentes dans nos mondes, alors qu'à l'époque, l'ordinateur domestique n'existe pas, et que l'avenir des hommes sera d'être les chats des machines. Voilà, ça va être une sorte de présence spirituelle supérieure, mais plus performante intellectuellement, comme le seront les machines. Et pour moi, ce qui est incroyable, c'est qu'en 58-59, il imagine en fait quelque chose qui existera, qui commencera à exister 20 ans plus tard, à l'époque où lui commence déjà à travailler sur Sans Soleil, où déjà peut-être qu'il anticipe les réseaux sociaux. Et finalement, cette exposition est un peu, en quelque sorte, une sorte d'archéologie du monde dans lequel on vit, en fait. C'est-à-dire que ça commence avec le musée imaginaire de Malraux et ça va jusqu'à Second Life.
En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elles feraient plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne serait traité de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie, est une ville moderne où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sang, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs cimes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité. Ce n'est pas une promenade dans les rues de Yakoutsk qui vous fera comprendre la Sibérie. Il y faudrait un film d'actualités imaginaires, pris aux quatre coins du pays. Je vous le projetterai par exemple dans le joli cinéma verni de Yakoutsk. Et je vous le commenterai à l'aide de ces tournures sibériennes qui sont déjà des images.
On entre dans une nouvelle salle qui est le Chris Marker voyageur, globe-trotteur, qui va de l'Amérique latine à l'extrême confin de l'Asie. Il va faire un film qui s'appelle « Lettres en Sibérie ». Il va faire un petit exercice. Sur les mêmes images, il va mettre trois commentaires différents et ça change évidemment complètement la perception qu'on a de ce qu'on voit. Bonne chance pour Valil.
Oui, c'est un exemple effectivement canonique qui est souvent cité de cette relation entre l'image et le son, puisque à l'époque où il réalise ce film, comme il le dit lui-même, on ne pouvait parler de l'Union soviétique qu'en termes de paradis ou d'enfer. Et donc il va s'amuser sur des images relativement banales à mettre deux commentaires, un commentaire effectivement négatif, un commentaire positif. Je pense qu'il commence même par le commentaire positif, ensuite le commentaire négatif. Et puis finalement, il va aussi dans un commentaire objectif, et le plus drôle étant le commentaire, et le plus ridicule pratiquement étant le commentaire objectif. Et puis il arrive à une conclusion qui peut-être est le plus important, qui dit que l'objectivité elle-même n'est pas juste, que ce qui compte c'est l'élan et la diversité. Et ça montre effectivement toute l'originalité de Chris Marker, je dirais d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue politique, parce que ça pourrait paraître simplement facétieux, simplement un exercice de style, mais pour moi ça définit véritablement la position aussi de Marker à l'époque, qui est une position très essayiste dans la mesure où il garde son regard à lui en fait sur une réalité. Et pour moi il y a chez Marker une volonté en fait d'aller voir de lui-même une réalité dans certains pays, de rapporter sa vérité en s'intéressant aux éléments qui l'intéressent, mais de jamais céder à un discours idéologique. Je pense que Marker n'a jamais cédé à l'idéologie. Il a toujours en fait fait appel à l'intelligence en fait du lecteur ou du spectateur. Et pour moi, c'est un exemple qu'on voit très bien à ce moment-là dans Lettres de Sibérie et au moment où il le réalise.
C'est dans cet esprit aussi qu'il va diriger au seuil cette collection qui s'appelle Petite Planète. Nous sommes entourés dans cette salle de photographie qui était dans ses livres et de l'ensemble des livres qu'il a édités. Alors on va parler d'Italie, de Grèce, d'Allemagne, de Belgique, de la Chine avec Armand Gatti. On va même parler de la planète Mars, Petite Planète sur Mars, c'était quand même merveilleux. Et on a le sentiment en regardant ces livres qu'il y a un monteur là encore, c'est-à-dire que ce qui intéresse beaucoup Chris Marker, c'est l'articulation entre un texte et des images, comme il le fait dans ses films, Christine Vanache.
Alors, ce qui est étonnant dans cette section, qui est la section des voyages, de Marker photographe et éditeur, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait toujours un appareil photo avec lui et qu'il a pris, on a retrouvé plus de 42 000 photos. On n'est même pas sûr qu'on a tout gardé dans les archives. Donc, c'est aussi un grand photographe qui était toujours témoin de son temps, qui prenait des photos partout où il allait. Alors, il prenait des photos pour en accumuler dans ses archives, mais aussi pour des futurs projets. Et ces photos, il les a utilisées évidemment dans la collection Petite Planète, dont il était directeur pour la maison Le Seuil. On a retrouvé des photos originales qu'il a publiées dans ses guides de voyage, qui étaient des guides de voyage assez intellectuels. Il faisait appel à des écrivains dont certains rencontraient pas mal durant la résistance, qui étaient devenus des amis de toujours, qui étaient son cercle d'intellectuels en fait, qui écrivaient des textes comme Armand Gatti par exemple pour Le Petite Planète sur la Chine. Mais il en a profité, parce qu'il était déjà intéressé par le cinéma, pour faire son premier court-métrage dans ce guide de voyage Petite Planète.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement.
À Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur.
On parle de photographie et on arrive doucement vers le film sans doute le plus célèbre de Chris Marker, objet d'un culte mondial et qui a même donné lieu à la création d'un bar à Tokyo. Alors ce film, c'est évidemment la jetée de Chris Marker, c'est presque son nom complet, hein, la jetée de Chris Marker, film court, 29 minutes je crois, film très particulier parce qu'il est constitué entièrement de photographies, d'images fixes, sauf une. Et le moment où cette image s'anime, c'est une véritable épiphanie cinématographique. Film très particulier parce qu'il va le tourner le week-end, pendant que le reste de la semaine, il fait un film complètement différent, Bamshad Gourvali.
Oui, effectivement, c'est sa première fiction cinématographique qu'il réalise en parallèle à son premier long-métrage documentaire, qui est Le Joli Mai. Donc Le Joli Mai, qui est un film fait en cinéma direct, donc qui est en prise avec la réalité du mois de mai 62 à Paris.
Avec et Pierre Lhomme en chef opérateur. Avec Pierre Lhomme. Et Chris Marker aura l'élégance de co-signer le film avec lui.
Tout à fait, parce qu'il estimera effectivement qu'une grande partie du film et de son mérite tient à l'objectivité passionnée, selon son expression, de Pierre Lhomme, le regard de Pierre Lhomme. Et puis effectivement, il tourne en quelque sorte le négatif, le double de ce film, qui pour moi clôt même peut-être un peu ce qu'on a appelé l'école française du court-métrage, qui commence justement avec Les Statues meurent aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Et La Jetée, lui, est un film qui anticipe en quelque sorte sur la Troisième Guerre mondiale, alors que Le Joli Mai parlait du premier printemps de paix, puisque c'est comme ça que le film était présenté à la fin de son générique.
On est en 1962.
Exactement, et donc c'est la fin de la guerre d'Algérie, et c'est pourquoi, en fait, Marker s'intéresse à un moment de paix depuis 150 ans en France, en quelque sorte, et en parallèle, il commence déjà à penser ou à s'inquiéter ou à réfléchir sur une possible déflagration à venir.
Cette Troisième Guerre mondiale, et c'est ce que raconte La Jetée, entre autres. C'est surtout une histoire d'amour fou. On n'est pas très loin des surréalistes, là encore, Christine Van Hache. Et dans les trésors que vous avez retrouvés chez Chris Marker, il y a tous les éléments de préparation et le matériau de base de La Jetée, qui sont les photographies et des cahiers de montage de ces photographies.
Alors pour l'histoire de la fabrication de ce film, nous avons découvert qu'il allait souvent à la Cinémathèque de Bruxelles. Il était très ami de son directeur, Monsieur Ledoux, qui est d'ailleurs acteur dans La Jetée. Et il allait y voir des films censurés, parce qu'il paraît qu'en Belgique, dans les fin des années 50, début des années 60, on pouvait voir des films censurés en France.
Le voyage à Bruxelles, c'est un des grands moments de la vie d'un cinéphile dans les années 50.
Il allait aussi voir des films de science-fiction que lui préparait son ami Ledoux. Donc on a retrouvé à la Cinémathèque de Bruxelles le scénario de La Jetée, donc qui est un cahier constitué de petites images découpées dans des planches contact et avec des annotations encore un petit peu mystérieuses pour nous, mais que des chercheurs vont certainement élucider. On a retrouvé par contre à Paris, dans les archives de la Cinémathèque, les planches contact trouées. Donc, il manque les petites images qui sont dans ce fameux cahier scénario. Nous avons aussi trouvé des photos de tournage, des photos non utilisées dans le film lui-même, plus de planches contact et une lettre de la production, voilà, etc. Donc, il y a du matériel supplémentaire pour le nombreux chercheurs qui s'intéressent à La Jetée.
Ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas suffisamment de livres déjà consacrés à l'interprétation de La Jetée. Ça doit être un des films les plus mystérieux et les plus interprétés à l'écrit. On est aussi à un moment charnière parce que quand Chris Marker voulait bien qu'on montre ses films, qu'il y ait des rétrospectives, pour lui ça commençait maintenant, en 1962. Il n'était pas tellement pour qu'on projette les films qu'on a vus dans les salles précédentes, que ce soit Lettre de Sibérie, les différents voyages qu'il a pu faire. Vous qui avez bien connu Chris Marker, Christine Van Hache, j'imagine que quand on doit monter une exposition avec lui au Centre Pompidou, ce sont des négociations sans arrêt, il va être très modeste, ne va pas vouloir se mettre en avant. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas montrer ses films, ses premières armes?
Il faut dire que ses premiers films, c'était des films de commande qu'il a réalisés alors qu'il faisait partie de l'organisation Peuple et Culture. Donc c'était une organisation affiliée au Parti communiste, même si Marker n'était pas lui-même, n'avait pas sa carte du parti. Et donc c'est pour ça qu'il allait dans ces pays communistes, parce qu'on pensait évidemment à l'époque que le communisme c'était la grande utopie du XXe siècle. Donc c'est pour ça qu'il a été en Sibérie, en Chine, en Corée du Nord et à Cuba. Évidemment, il travaillait sur une actualité directe. Probablement, il était très influencé par les personnes qui le recevaient. En Chine, on sent qu'il n'a pas pu tourner ce qu'il voulait tourner. Bon, il ne parlait pas non plus le chinois. Même en Sibérie, on voit qu'il a été conditionné par les puissances invitantes. Donc on peut comprendre qu'après, il ait pu renier certains films parce qu'il n'était plus d'accord avec le point de vue politique qu'il avait adopté à l'époque où il a tourné et monté ses films.
Dans cette rubrique qui s'intitule, je vous le rappelle, Tribune Libre, je m'excuse de vous le rappeler, mais je crois que c'est important, nous allons vous présenter un document sur la condition ouvrière en France en 1968. Il s'agit d'un film que nous a apporté Chris Marker et qu'il a tourné à Besançon. Chris Marker, vous le connaissez, c'est un cinéaste engagé, très engagé même, qui a fait des films comme « Loin du Vietnam » ou « La marche sur Washington », dont nous vous avons d'ailleurs montré des extraits à caméra 3.
Puisque vous abordez la politique, 1962, quelques années après, il y a un tournant, là encore, majeur pour Chris Marker. Avant même mai 68, et on pense bien que cette exposition est aussi en lien avec le 50e anniversaire de mai 68, c'est 1967, année importante pour lui parce qu'il va organisé un film qui s'appelle Loin du Vietnam, où il va faire appel à de nombreux collègues cinéastes et pas des moindres, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, même Claude Lelouch, qui va filmer un porte-avions pour les besoins de ce film. Et puis il va rencontrer un groupe d'ouvriers en Franche-Comté, dans l'usine Rodiaceta, en grève, 1967. Il va y filmer un film, il va le projeter aux ouvriers, qui en gros vont lui dire « Mon cher Chris, tu n'as rien compris à ce qu'est notre vie, à ce qu'est notre lutte. » Et donc, il va leur donner des caméras, il va leur donner du matériel sonore, il va dire eh « Faites-le vous-même, on va vous apprendre à le faire. » Et c'est là qu'il va créer les groupes Medvedkin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour Chris Marker? On est dans un moment où, comme Godard le fera juste après, avec un autre nom de cinéaste russe célèbre, Dziga Vertov, Chris Marker commence déjà à se retrancher, à disparaître, même chaque Bourvalie.
Oui, effectivement, l'année 67 marque ce qu'on appelle la période militante de Chris Marker, puisque Marker était attiré et toujours intéressé par la politique, mais à partir de 67, effectivement, il va y avoir une dimension militante, une dimension militante qui va se traduire sous l'image et le patronage d'Alexandre Medvedkin par l'idée, en fait, d'inciter les ouvriers, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués au premier chef, en fait, à eux-mêmes devenir d'être réalisateurs, en plus d'être acteurs finalement de leur vie, d'être réalisateurs aussi de films pour en rendre compte. Et pour moi, ça s'inscrit en fait certainement dans le prolongement normal du rapport à la politique de Marker, parce que dans Le Joli Mai, le film consistait quand même à donner la parole aux personnes qu'il rencontrait, aux Parisiens, qui étaient les mieux placés pour parler de Paris, comme il est dit au début du film. C'est selon la même logique du cinéma direct qu'il fait à Bientôt J'espère, film donc qui ne sera pas apprécié par ceux qui l'auront filmé. Et finalement, il en arrive lui-même à l'idée que ce sont aux ouvriers eux-mêmes de témoigner. Et lorsque plus tard, il s'intéressera aussi aux nouveaux moyens que sont Internet, les réseaux sociaux, pour moi, ça sera aussi véritablement dans cette même démarche, finalement, où le travail artistique chez Marker doit aussi toujours être politique, où le travail politique doit toujours être artistique. Et ce moment charnière, d'ailleurs, la charnière est le titre du prolongement de « À bientôt, j'espère », puisque le film qui a été montré ensuite a donné lieu à une conversation dont nous n'avons que le son, et ce son, ce film de 10 minutes qui n'est constitué que de son s'appelle La Charnière. Mais pour moi, c'est vraiment La Charnière au sens plus important certainement de l'œuvre de Marker, où il n'abandonne jamais, lui, la dimension artistique. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a reproché, mais il va aussi encourager d'autres personnes à leur manière, finalement, suivre cet exemple de lier finalement politique et artistique.
Il va créer un autre collectif après les groupes Medvedkin, ça va être Sloan. Sloan qui est un acronyme mais qui a aussi une signification.
Oui, c'est donc les initiales de société de lancement pour les œuvres nouvelles, et effectivement en russe il se trouve que Sloan signifie éléphant, et là encore on voit comment, chez Marker, la politique n'est jamais éloignée de l'artistique, de l'imaginaire personnel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la figure animale qui a toujours été présente chez lui. Et c'était un point commun avec Alexandre Medvedkin, qui aussi avait un cheval à petit poids, d'ailleurs, qui sera le premier emblème de Sloan, en fait, pour la sortie du bonheur. Ce sera un dessin de Follon qui représentera ce cheval.
Précisons, Alexandre Medvedkin, très grand cinéaste soviétique, le réalisateur du bonheur, et puis il avait un cheval, mais il avait aussi un train, puisque ce qui a passionné évidemment Chris Marker, c'est le ciné-train d'Alexandre Medvedkin, qui servait à la fois à filmer et à montrer les films dans les coins les plus reculés de l'Union soviétique en train de se constituer.
Dites en passant que il est intéressant aussi, enfin Marker l'avait noté, que dans Medvedkin, il y a Medved qui veut dire ours en russe.
J'avais filmé Zatopek en 52 aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Ce qui nous était apparu comme une respiration, un îlot de paix dans la guerre froide, sera peut-être considéré par les historiens comme une véritable tentative de contact entre l'Est et l'Ouest. Une préfiguration de la diplomatie, du ping-pong et du basket. À un moment où la guerre de Corée semblait préfigurer tout autre chose. Il y avait à Helsinki une équipe de Corée du Sud. Et le cuisinier de cette équipe était l'homme qui, en 1936 à Berlin, avait gagné le marathon devant les caméras de Leni Riefenstahl. Seulement à l'époque, il était japonais. On ne sait jamais ce qu'on filme. Leni Riefenstahl avait cru filmer un japonais, elle avait filmé un coréen. Moi, en suivant le champion de jumping de l'équipe chilienne, j'avais cru filmer un cavalier, j'avais filmé un putschiste, le lieutenant Mendoza, devenu plus tard le général Mendoza, un des quatre de la junte de Pinochet. On ne sait jamais ce qu'on filme.
On est sans doute ici dans la salle la plus politique de toute cette exposition. Une salle qui retrace les années 70, les photographies que prend Chris Marker dans les manifestations de 68, plusieurs documents qui font référence au Black Panther, par exemple, au Chili, et à côté, cette salle où est projetée dans son intégralité, sans doute pour moi le film majeur de Chris Marker, Le fond de l'air est rouge, film fleuve de 4 heures à l'origine, que Chris Marker réduira à 3 heures ultérieurement, qui retrace de manière très mélancolique ce qu'ont été ce qu'on appellera les années 68, c'est-à-dire la période 67-77. Même si on est chez Chris Marker, le temps se réinvente dès le générique, avec ce montage en parallèle des images d'Eisenstein pour le cuirassé Potemkin, les fameux escaliers d'Odessa et les luttes contemporaines. C'est un film qui fait quoi, Bamshad Pourvali ? Qui fait un bilan de ces années-là ?
Qui fait un bilan, effectivement, et puis aussi qui s'intéresse à l'évolution des mouvements collectifs au cours de ces années, puisque on peut dire que c'est la fin peut-être d'une certaine utopie qui est celle qui est née en 17, on va dire, ou en 1905, même puisque le Cuirassé Potemkin renvoyait à un épisode de 1905, et en même temps qui commence à s'interroger sur comment d'autres formes du politique peuvent s'inventer, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au groupe Medvedkin. Finalement, c'est aussi un film, Le fond de l'air est rouge, qui est constitué en grande partie de documents qui ont été tournés durant toute cette période par des cinéastes amateurs, des cinéastes militants, dans des collectifs. Donc c'est aussi une contre-histoire de cette période. Et en même temps, par le matériau qui a servi à constituer ce film, pour moi, il y a déjà certainement une réflexion sur les années à venir et une nouvelle forme certainement d'utopie que Marker va commencer à penser dès les années qui vont suivre à travers l'informatique, parce qu'il n'y aura pas, pour moi, de coupure nécessairement, même s'il y a une évolution, et c'est cette transition, cette évolution du politique que traduit, et en même temps en embrassant effectivement un siècle entier à partir d'une décennie, Le fond de l'air est rouge. Le fond de l'air rouge, pour moi, traduit véritablement effectivement le passage d'une certaine forme de politique au début de la naissance d'autres formes.
Christine Van Hache, qu'est-ce que vous avez découvert dans les archives Marker qui éclaire ce travail, ce long travail qui va durer presque 10 ans, au moins 6 ans de Chris Marker pour donner Le fond de l'air est rouge?
En fait, on a trouvé très peu de scénarios des films de Marker dans les archives, mais on a trouvé une grande feuille qui décrit un peu les principaux plans de ce film. Mais en fait, ça reste un mystère, la manière dont Marker écrivait ses films. Alors, on ne sait pas s'il les a détruits pour ne laisser vivre que les films. Peut-être que oui, parce que je ne peux pas imaginer qu'il ne prenait pas des notes pour préparer ses montages. Ce qu'on a découvert d'un petit peu spécifique aussi, c'est qu'il a été en Guinée-Bissau en 1971, invité par son ami Mario Marais pour enseigner le cinéma aux Guinéens. ce qu'il a toujours, en fait, depuis très longtemps, depuis la fin de la Résistance, parmi ses objectifs d'enseigner le cinéma. En fait, c'était un élève d'André Bazin et donc il a été maître d'œuvre de Ciné-Club. Et en Guinée-Bissau, il a œuvré pour que les Guinéens pouvaient avoir accès à du matériel et faire leur propre film, un peu comme
dans le groupe Medvedkin en Guinée-Bissau.
Une autre petite curiosité, c'est ce montage du film des Black Panthers. Donc Bill Stevens tourne en vidéo avec une caméra prêtée par Carole et Paul Roussopoulos, les Black Panthers allant d'Alger au Congo. Marker n'y était pas, mais Carole Roussopoulos et Bill Stevens demandent à Marker de monter ce film. Donc c'est à la fois son premier montage vidéo et on sent vraiment la facture Marker dans ce montage. Donc c'est une petite curiosité dont il ne reste qu'une copie VHS, mais qui est une des curiosités de l'exposition aussi.
Et on entend dans Le fond de l'air est rouge, dit textuellement une réflexion très importante de Chris Marker et qui va infuser les films qu'on verra plus tard et qu'on voit ici également dans cette exposition, Sans soleil, Level 5, les films qu'il va tourner en ex-Yougoslavie et tant d'autres, et L'héritage de la chouette aussi, la série télévisée pour Arte. On ne sait jamais ce qu'on filme. Marcel Pourvali.
Oui, effectivement, Marker qui est quelqu'un, comme il le dit dans le tombeau d'Alexandre, dont le travail consiste à interroger les images, a cette réflexion que des images qu'on filme à un moment donné, en fait, on les voit, on les perçoit d'une autre manière dans l'histoire. Et le fait qu'il ait proposé aussi plusieurs versions de ses films est intéressant de ce point de vue, puisque ça montrait aussi que lui-même éprouvait le besoin d'avoir un autre regard, en fait, parce que je pense que le mot qui définit aussi le mieux Marker, c'est vraiment celui du regard, d'un autre regard, en fait, sur ses œuvres, parfois même, effectivement, pour pointer des éléments. D'ailleurs, cette expression « on ne sait jamais ce qu'on filme », elle vient dans Le fond de l'air est rouge, sur un montage où il remonte, où il commence par remonter à son premier film, qui est Olympia 52, où il fait remarquer qu'il avait filmé un champion de jumping qui deviendra plus tard un des membres de la junte de Pinochet. Donc en fait, c'est aussi tout ce travail de la mémoire et puis de la relecture incessante des images, je dirais, chez Marker, qui est certainement ce qu'il a fait toute sa vie, d'où aussi le fait de reprendre certains des films. Et pour moi, les différentes versions, parce qu'il y en a plusieurs, aussi bien du Joli Mec que du Fond de l'air rouge, la version dernière n'invalide jamais celle qui précède. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lecture à tel moment par rapport au contexte, par rapport à une réalité d'un moment particulier.
Joli mais c'était tous les jours fête, il était né coiffé de muguet, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais.
L'exposition sur Chris Marker, Les sept vies d'un cinéaste, se poursuit jusqu'au 29 juillet à la Cinémathèque française à Paris. Elle est bien sûr accompagnée d'une rétrospective intégrale de ses films, mais aussi de ceux auxquels il a collaboré et des grands films classiques qu'il aimait. Pour en savoir plus sur Chris Marker, vous pouvez aller à la Cinémathèque française jeudi prochain, 10 mai à 19h. Notre invité, Bamshad Pourvali, y prononcera une conférence. Qui êtes-vous, Chris Marker? Vous pouvez aussi lire le petit cahier qu'il a signé sur le cinéaste, édité par les Cahiers du cinéma,
et surtout vous procurer l'indispensable catalogue de l'exposition 400 pages, ouvrage collectif qui explore en de courts textes et une très riche iconographie l'inépuisable fonds d'archives récupéré par la Cinémathèque française à sa mort. Vous pouvez aussi regarder le très éclairant documentaire d'Arnaud Lambert et Jean-Marie Barbe, Chris Marker, Never Explain, Never Complain, édité en DVD par DocNet Film, ou écoutez samedi prochain sur France Culture, La Nuit, Chris Marker, qui programmera entre autres Une rareté absolue, une fiction radiophonique écrite par Marker lui-même en 1949, ça s'appelle Jusqu'à la fin des temps. Le mieux restant évidemment de voir et revoir ces films, et si vous ne pouvez pas vous rendre rue de Bercy à Paris, sachez que la quasi-totalité de l'œuvre cinématographique et télévisuelle de Chris Marker est publiée en DVD par Arte Édition. Il y a le coffret Planète Marker, 16 films, et puis pour la première fois en DVD, la passionnante série télévisée qu'il avait consacrée à la pensée grecque, ça s'appelait L'héritage de la chouette. Une question d'héritage, précisément, c'est ce dont va nous parler à présent Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm.
Hello.
Hello.
How are you, Squirt?
Hello.
What are you doing?
Home.
Where's Mummy?
Going to shopping.
Oh, who's taking care of you?
Rachel.
May I speak to Rachel, please?
She's going to the bathroom. Are you coming to my party tomorrow?
I'm sorry, sweetheart, but I can't.
Why not?
You know, Daddy's traveling. Very sorry about it, but I just can't. I'm going to send you a very nice present, though.
All right.
Anything special that you want?
Yes.
What?
A telephone.
We got lots of telephones already. Can't you think of anything else you want for your birthday? Something very special?
Yes.
What?
A bush baby.
A bush baby? Well, we'll have to see about that. Listen, sweetheart, I want you to tell Mummy something for me. Will you remember?
Yes.
Well, tell Mummy that I telephoned, okay?
Yes.
That I'll try to telephone again tomorrow. Now, will you tell her that?
Yes.
Okay, sweetheart. Now, have a nice birthday tomorrow.
All right.
And have a nice birthday party tomorrow, too, huh?
All right.
Okay, now take care and be a good girl, won't you?
All right. Bye-bye.
Bye-bye. Happy birthday.
Happy birthday, joyeux anniversaire. Le nouveau numéro de Sofilm rallume la flamme de 68 pour ses 50 ans et affiche en couverture un homme en scaphandre rouge, 68 oblige, s'avançant de dos dans un couloir illuminé. 2001 à 50 ans, lui aussi. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick sera projeté au Festival de Cannes le dimanche 13 mai dans la version qui avait ébloui et interloqué en même temps les spectateurs de 1968, copie 70 mm restaurée par un admirateur du cinéaste démurge et maniaque qui a empilé les références flagrantes au maître de Inception à Interstellar, Christopher Nolan, l'auteur de The Dark Knight et de Dunkerque, fuit en général les entretiens comme la peste. On l'avait d'ailleurs invité à plan large, il n'est pas venu. Il a pourtant accepté de recevoir l'envoyé spécial de Sofilm à Los Angeles, Axel Cadieu, le chanceux, pour lui expliquer comment il s'est retrouvé à superviser la restauration de ce qu'il considère, je le cite dans l'entretien, comme tout simplement la plus radicale des ruptures dans l'histoire du cinéma, avec peut-être D.W. Griffiths et encore Fernando Ganzo.
Oui, en effet, Nolan nous a ouvert les portes du laboratoire où 2001 a été restauré, avec une envie très précise, nous parler des aspects techniques. Et le plus étonnant, c'est que, en parlant de Kubrick et des restaurations, il finit surtout par dresser une espèce d'autoportrait qui décrit de façon très intime et précise son rapport au cinéma. Voilà comment ça s'est passé. L'été dernier, Nolan visite les studios Warner à Burbank, près d'Hollywood, pour superviser la version 4K de Dunkerque. Là-bas, très gentiment, l'un des patrons de la Warner lui propose de jeter un œil aux bobines de 2001 et Nolan se rend compte qu'en fait, il garde un interpositif du film, c'est-à-dire une copie à partir de laquelle on peut tirer un nouveau négatif et il propose tout de suite de faire une restauration en 70 mm. Mais il le fait avec des conditions très précises. Il veut faire ce qu'il appelle une version non restaurée. Ça peut sembler paradoxal, mais ça fait sens. Pour Nolan, il fallait sentir, en redécouvrant le film, le passage du temps. Oui, dit-il, il y a quelques égrenitures, des anomalies, des éclats, des jambes brisées, mais qui en a quelque chose à faire d'un grain de saleté, franchement. Je veux remonter dans le temps, montrer aux gens ce que c'était que de découvrir ce film en 68. Donc, non restaurer les films comme une façon de voyager dans le passé, mais, bon, il a fait Interstellar quand même, aussi dans le futur. Car, et c'est très intéressant d'entendre ça de la part de quelqu'un qui a fait des films comme The Dark Knight, Inception ou Interstellar, Nolan se méfie du progrès technique. Il compare les restaurations trop parfaites aux effets spéciaux, ça vieillit mal. Aujourd'hui, ça nous paraît nickel, dit Nolan. Vous verrez dans quelques années ce que notre œil nous dira. De très nombreux films sont surrestaurés, numérisés sans aucune raison. Les mecs nettoient absolument tout, la moindre poussière ou saleté. Ils rendent ça propre, beaucoup plus que lorsque les films sont sortis. Ça me dépasse. Logiquement, on comprend mieux l'attachement de Nolan à la pellicule, lui qui refusera toujours catégoriquement de tourner numérique. Et il est radical. À mon avis, ça ne devrait pas servir à faire des films. La plupart seraient bien meilleurs sur pellicule. Un exemple révélateur. Ces cinéastes qui changent de caméra d'un film à l'autre parce qu'elles deviennent datées, dépassées, très vite. Une façon de dire que ce qu'ils avaient fait aujourd'hui, c'est nul. Je ne comprends rien à leur manière de voir les choses, dit Nolan, qui donne un contre-exemple. Sean Baker, qui tourne un film avec un iPhone et le suivant en 35 mm. C'est exactement ce qu'il faut faire, choisir les formats en fonction de son projet, dit Nolan. Florida Project n'a rien coûté, l'argument financier n'est pas recevable. Le numérique coûte moins cher, c'est une idée reçue qui a fait 100 ans.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right, because their words had forked no lightning they. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
Mais quoi dire de cette étrange relation entre Nolan et Kubrick ? Admirateur, sans doute, mais vraiment influencé ? Et pourquoi dans la tête des gens, il est si normal de faire un lien entre les deux ? Interstellar, dont on vient d'entendre un extrait, serait théoriquement le film où Nolan aurait pu le plus s'inspirer de Kubrick, mais, surprise, il avait refusé de revoir 2001 quand il travaillait sur ce film. Et il dit « c'est trop fort, trop intimidant ». J'essaye seulement de m'inspirer d'une chose qu'il maîtrise à la perfection, le calme qui émane de ce film. On sent qu'il a une confiance absolue en sa démarche, en ce qu'il filme, un calme olympien. Il est inimitable. Même plan par plan, j'ai essayé, c'est impossible, ça ne marche pas. Il ne vaut mieux pas essayer pour un cinéaste d'entrer dans l'univers de Kubrick. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'ouvre pas dans le même monde que nous. Il a passé sa vie à enfreindre des règles que nous autres cinéastes avons besoin de suivre. Car 2001 serait les films, en effet, qui brisent tous les codes, les films qu'on ne peut pas voir comme on regarderait un autre. À tel point que pour Nolan, c'est plus simple de faire découvrir 2001 à un enfant de 8 ans qu'un adulte de 40 ans. 2001, c'est le point de départ d'une idée, qu'un film pouvait être n'importe quoi, qu'il n'y avait pas de formule à suivre. Bref, un film expérience. Et l'expérience, pour Nolan, se passe dans la salle, dans une communauté. Si vous y réfléchissez, c'est de ça dont parle Dunkerque, il théorise. De ce qu'on peut faire ensemble. Notre époque surévalue les individualités et pousse à ce que l'on soit de plus en plus isolé. La technologie est pernicieuse puisqu'elle induit même l'illusion d'une collectivité jusqu'à nous en débouter. De ce point de vue, les salles de cinéma ont une importance fondamentale. Ce n'est pas pour rien qu'on les compare à des églises. Nolan va donc nous proposer à Cannes une expérience religieuse, inimitable, pour un cinéaste inimitable. Sa façon, donc, de répondre à ceux qui l'ont rêvé fils de Kubrick aura été de devenir, le temps d'un court instant, son double et fantôme.
« Merci beaucoup Fernando Ganzo. Ce film numéro 60 avec 2001 en couverture, c'est dans tous les kiosques en version papier. En attendant, la ressortie en salle et en 70 mm du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Yves Lehor pour le reportage à la Cinémathèque française et Anthony Thomasson à la Maison de la Radio. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large sera comme Christopher Nolan au Festival de Cannes, mais sans Christopher Nolan, on fera une émission en direct consacrée à la compétition qui s'annonce très ouverte cette année. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.